Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier vivement cher professeur Madame Morandi de Guilhem ainsi que Madame Fatiha Telahid pour cette occasion, qui m'ont donné cette occasion pour présenter mon travail sur les fondations des femmes à la ville de Myliana à l'époque ottomane. La femme, d'après la documentation archivistique, située principalement aux archives nationales d'Alger ainsi que les archives d'Outre-mer. La femme, d'après cette documentation, elle est établie, gérée et bénéficiée de ce genre de waqf. Comme vous voyez, dans notre échantillon, je vais poser les questions suivantes. Quels sont les principes religieux et sociaux sous-jacents quant à la nature de la propriété foncière en waqf vis-à-vis des rôles des femmes? La deuxième question, quel est le rôle social dans la société urbaine ou rurale concernant les femmes à propos des waqf? Toujours à partir de cette documentation consultée qui concerne la ville de Myliana. C'est une ville, une petite ville située au sud-ouest de la ville d'Alger, vers 120 km presque. Alors, le terme de Awqaf Nisa, de Waqf des femmes, c'est quoi? C'est les waqf qui concernent les femmes à plusieurs égards, comme je vous ai dit maintenant. Les femmes peuvent être bénéficiaires des waqf créés par les hommes, comme elles peuvent être aussi fondatrices des waqf et en même temps bénéficiaires de leur propre waqf, c'est-à-dire le waqf fondé par la femme elle-même, à savoir fondatrice ou bénéficiaire d'un waqf. Une femme qui bénéficie du revenu d'un waqf, et généralement c'est la fille, la nièce ou encore la belle-fille, la bru d'un fondateur ou d'une fondatrice lorsqu'il s'agit d'une fille née d'un précédent mariage de l'époux ou de l'épouse. Les documents révèlent que la répartition des revenus du waqf est souvent calqué, toutefois, c'est la règle de l'héritage musulman. Aux garçons, une part comme celle de deux filles. Premièrement, la femme en tant que bénéficiaire, c'est-à-dire, dans ce cas, c'est l'homme qui a fondé le waqf. Quelles sont les conditions et les droits? En revanche, dans d'autres cas, nous avons une situation de répartition équitable entre hommes et femmes. Une répartition équitable entre hommes et femmes. Comme à titre d'exemple, il y a un exemple ici comme Seyyed Ibrahim Bey de l'Ouest algérien, dans la plaine de Chlif, qui a dans ce waqf de 1763, a stipulé au profit de mes enfants existants, c'est-à-dire c'est le texte intégralement de la fondation pièce, existant des enfants à naître de moi, masculin et féminin, et au profit de leurs descendants, et ce en part égale entre les filles et garçons. Par ailleurs, nous avons d'autres exemples où il y a... On marque l'inégalité de la répartition des bénéfices d'un waqf ne concernait pas uniquement l'homme et la femme, mais aussi, comme nous avons déjà parlé, des fois entre femmes et des fois entre hommes. nous constatons un partage inégal entre femmes et entre sœurs, c'est-à-dire entre les femmes eux-mêmes. Il y a un exemple ici. Je ne sais pas s'il y a encore de temps pour présenter ces exemples ou bien on laisse à la discussion. Je ne sais pas. Oui. Dans un registre de tribunaux de 1782, nous avons le texte suivant intégralement. Après sa mort, c'est-à-dire du fondateur qui s'appelle Othman Turki, le waqf revient au profit des filles de son beau-fils Ahmed ben Ibn Hussein ben Ahmed Bey nommé. Bon, voilà, il cite les noms Aïcha, Ruqayya, Khadija et Umm al-Hassan, avec des proportions suivantes, une moitié pour Aïcha et l'autre moitié est répartie entre les trois autres sœurs. Nous avons déjà parlé de ce point dans des communications précédentes. Alors, si certains fondateurs adoptèrent le principe de la double part pour l'homme, d'autres optent pour l'égalité entre les sexes, c'est-à-dire c'est des cas précis. La femme comme conjointe de fondateur est aussi, rarement, mais aussi totalement bénéficiaire de ce waqf. Dans ces rares cas, son bénéfice est tributaire de son veuvage, c'est-à-dire comme condition. Certains fondateurs excluent complètement la femme des bénéfices du revenu du waqf, et cela à toute génération. Certains fondateurs, ce n'est pas tous les fondateurs. Nous avons ici un exemple où le texte mentionne que les enfants de sexe masculin uniquement sont aucun profit pour des enfants de sexe féminin à toute génération confondue. Dans d'autres cas, d'autres fondateurs temporisent l'exclusion de la femme de ce sens où, sous certaines conditions, elle devient bénéficiaire, cas de célibataire ou veuve. Autrement dit, tant qu'elle n'est pas à la charge d'un mari. D'autres fondateurs ne posent aucune entrave pour qu'une femme puisse bénéficier du revenu d'un waqf, même au cas de remariage. Dans le cas le plus général, l'exclusion de la femme s'apparente plus à la volonté de favoriser la priorité de l'homme plutôt que d'instaurer la privation absolue de la femme. Deuxièmement, la clause du célibat comme condition à certains fondateurs, condition à la participation de la femme au bénéfice d'un waqf, est la condition la plus répandue à la ville de Myliana à l'époque ottomane. À cet égard, et dans les localités environnantes, même comme d'autres villes comme Mezounat, Nis et Midiya, d'après certains documents. Pour comprendre cette logique de ces démarches, j'ai fait des hypothèses suivantes. Les différenciations entre les sexes et les exclusions déclarées ou non, telles que révélées dans les documents de waqf que nous avons étudiés, nous inspirent les réflexions suivantes. Premièrement, les fondateurs des waqf se sont inspirés de la jurisprudence musulmane relative à l'héritage qui favorise l'homme, responsable de la famille et garant de dépenses de celle-ci, cela, il faudrait rajouter la crainte des parents quand, à la pauvreté éventuelle de leur fils, les filles étaient prises en charge par leur mari. Des fois, on trouve ce genre de citation dans le document lui-même. La différenciation sexuelle peut également être motivée par la brièveté de la situation de la jeune fille qui reste célibataire ou de femme qui est veuve. Dans les deux cas, les femmes étaient rapidement demandées au mariage. Des fois, on trouve ça aussi d'après certains documents où on trouve le nom de la femme cité à plusieurs documents. Le premier document femme de ceci et le deuxième document de celui-là. Alors la différence de temps est... elles sont alors par ce fait mises sous la protection et à la charge de leur époux, contrairement aux enfants masculins plus exposés à la pauvreté. une certaine sensibilité d'ordre familial ou tribal ont pour souci de préserver les biens de la famille paternelle et d'empêcher leur dispersion au profit de d'autres familles ou tribus, c'est-à-dire le document ou le fondateur, comme ça il cite la fille ou la femme, elle a le droit s'il n'a pas un mari étranger. Il cite ce mot. Alors, les étrangers, généralement, c'est hors la famille, généralement. De ce fait, les fondateurs de WAQF peuvent œuvrer à exiler ou minimiser les bénéfices allant aux femmes. Les bénéfices du revenu d'un WAQF accordé à la femme sous condition de célibat pourraient être traduits comme une restriction au mariage. Ainsi, pour ne pas prendre ses droits, la jeune fille évite le mariage des fois, alors que les femmes mariées provoquent un divorce, notamment en période de répartition du revenu de WAQF. L'exclusion de la femme du revenu d'un WAQF, en particulier pour la première génération, et des bénéficiaires, est une privation d'héritage. En effet, même si en théorie un individu ne pourrait mettre plus d'un tiers de ses propriétés en WAQF justement pour ne priver ses héritiers de leur dû, en réalité, souvent, une très grande partie des biens d'un individu se trouvait sous forme de WAQF. Deuxièmement, la femme, en tant que fondatrice du WAQF, les biens de cette femme et son rôle social. Alors, généralement, l'atmosphère sociale et les règles de répartition qui régissent le WAQF concernant la femme comme bénéficiaire presque restent inchangées dans le cas où le WAQF était établi par une femme, une fondatrice. Dans le cas d'une fondation ou de bénéfices, la nature du bien WAQF mis en jeu, sa position, la détermination des parts, les clauses de statut de la femme, mère, sœur, épouse, parente, restent presque inchangées par rapport les fondations ou bien les WAQF des hommes. Dans l'échantillon qu'on a vu, les biens possédés par les WAQF établis par les fondatrices sont presque identiques que ceux produisent des revenus des WAQF accordés aux femmes bénéficiaires, une maison familiale, une étale, généralement située en ville, un jardin potager, des terres irriguées et des terres en friche, situées dans les arrière-pays des villes. Sauf que la femme, d'après la documentation que j'ai consultée, a ajouté certains locaux commerciaux. Les biens mis en WAQF par les femmes proviennent pour la plupart de l'héritage paternel. Par ailleurs, contrairement aux exemples étudiés concernant des propriétaires masculins devenus fondateurs de WAQF, il est rare que les femmes investissent dans l'achat des biens qui feront par la suite l'objet d'un WAQF. Les femmes pouvaient exécuter elles-mêmes les procédures de WAQF ou faire appel à un représentant ou wakil en la personne des conjoints généralement ou d'une autre personne pour le faire. Dans un WAQF testament, la fondatrice, jusqu'à son décès, reste la seule personne à jouir des biens qu'elle avait promis au WAQF qu'elle a créé. C'est aussi la situation pour un fondateur et cela en conformité avec le rite hanifite Medev Abu Youssef. Dans certaines situations, la jouissance des biens est cédée à la fée de la fondatrice ou à sa sœur. Le WAQF créé par les femmes porte une particularité qui le distingue à celui des hommes, dans la mesure où il peut être ouvert aux femmes étrangères, ce que j'ai constaté d'après la documentation qui concerne cette ville, aux femmes étrangères à la famille, c'est-à-dire une femme bénéficiaire qui ne serait ni la fille de la fondatrice ni sa sœur. Par ailleurs, le transfert de revenus entre femmes ne se limitait pas uniquement à ceux générés par les biens WAQF, selon un acte de répartition d'un héritage concernant des propriétés situées dans l'arrière-pays d'Alger, Fahsbeb Jdid, et des boutiques améliennes, une femme qui s'appelait Helika, défunte Fatouma, Betsid Ahmed Al-Ghalib, lègue le tiers de sa part de son héritage au profit de sa belle-mère. Les hommes sont également bénéficiaires aussi des waqf fondés par les femmes, soit durant la vie de la fondatrice, soit après sa mort, toujours presque comme nous avons déjà vu en ce qui concerne le waqf fondé par l'homme. Cela en tant que époux, beau-fils, petit-fils ou encore enfant à charge. Il apparaît donc que sur ce point, les fondatrices de waqf opèrent de manière assez différente des hommes qui créent des waqf. Nous le voyons dans les exemples cités ci-dessus, à l'exception près des fondatrices comme les fondataires fonctionnent selon les contextes religieux et sociaux de l'environnement culturel et selon les usages de gens. En conclusion, les femmes en tant que fondatrices de waqf jouent donc un rôle important dans la société, particulièrement envers leur choix d'enfants mineurs comme bénéficiaires de leur fondation, mais aussi par leur choix d'enfants majeurs comme bénéficiaires, ainsi que par les choix de verser des revenus de leur waqf aux orphelins et aux pauvres. Ce rôle permet de renforcer les rapports sociaux hors de la famille et de fortifier la cohésion au sein de la famille. D'un autre côté, nos recherches auprès des documents de waqf montrent que la propriété immobilière établie en waqf par les femmes, comme par les hommes, n'ont souvent pas dépassé les coffins de la famille, avec les bénéficiaires qui viennent des cercles familiaux, bien que nous avons analysé quelques exceptions à celles-ci. Merci.